Un autre rendez-vous de votre émission préférée sur Canal FM. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer à travers Club de la Presse. Toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué d'hier. Votre inconditionnelle fidélité nous honore. Michel Tomega à la Thomas Datevi à la technique assure la mise en onde. Vous suivez cette émission sur les différentes plateformes de Canal FM grâce à une mise en ligne de Géo Akucha. Club de la Presse est également suivi dans les lacs grâce à Radio Lumière, dans les plateaux à travers Radio La Paix, dans la centrale via Centrale FM. Les populations de la région de la Cara nous suivent grâce à Radio Daoul et Sama FM et dans la région des Savanes via Radio Courtoisie. Autour de cette table ce jour, Eric Johnson du journal L'Union pour la Patrie, ou simplement L'Union. Bonjour Eric.
Bonjour Fousseni, bonjour chers consoeurs, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Ambroisine Mémédé de l'agence de presse Savoir News. Bonjour Ambroisine.
Bonjour Fousseni, chers auditeurs, auditrices et lecteurs de l'agence Savoir News. Je vous salue avec beaucoup de joie. Bonjour Eric, c'est un plaisir de se retrouver.
Ah oui, tu nous as manqué. Hein?
Ça fait un bon moment. Nous espérons Isidore Akolor du journal Actu Express dans quelques instants. Le débat démarre dans un instant. Je me nomme Fousseni Saïbou. Il vient de faire son entrée, Isidore Akolor du journal Actu Express. Bonjour Isidore.
Bonjour Saïbou, bonjour à ma chère consoeur, Ambrosine et à mon alter ego, Eric.
Eric Johnson.
Ce sourire-là me dit quelque chose.
D'accord.
Ça va être bon.
D'accord. Alors, comme tous les mardis, nous démarrons...
D'abord, saluer le retour de la dame.
Oui, ça fait longtemps, elle nous a manqué.
D'accord. Pour beaucoup de raisons.
D'accord.
Je ne vais pas être dévoilé ici.
Ah ouais.
D'accord. Alors, comme tous les mardis, nous démarrons avec des sujets culturels et nous parlons Evala. À la une du journal L'Union, Evala 2023 sous l'ombre de Faure Gnassingbé. Eric Johnson.
Oui, Fousseni, merci. Oui, Evala a fini. Evala a commencé le 8 juillet dernier et ça s'est terminé le samedi 15. Oui, sous l'ombre de Faure Gnassingbé, parce que vous savez, Faure Gnassingbé a été présent à ce rendez-vous culturel. Il a été présent du début jusqu'à la fin. Il a pratiquement participé à tout et, comme on l'a dit, son ombre a plané sur tout. Alors, on s'explique un peu en disant que beaucoup de visiteurs à ce rendez-vous culturel de la préfecture de la Causa ou dans les 15 cantons que regorge cette préfecture. Il y a eu des cérémonies en prélude aux luttes traditionnelles et donc après on a assisté à des empoignades entre différents quartiers de la préfecture de la Causa. Le président Faure Gnassingbé a assisté évidemment à des demi-finales, à des finales, et l'apothéose était le samedi dernier au terrain de Lassa, le collège de Lassa, je crois bien. Et donc tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident majeur.
D'accord.
Et contrairement à d'autres années où on a assisté quand même à des bousculades, on a eu également des accidents de route, etc. À notre truc, on n'en a pas entendu parler.
D'accord.
Et donc, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et là, ces évas-là ont eu la visite de plusieurs personnes, disons plus de 300 000 visiteurs, des gens qui sont venus de partout, de la diaspora, des des autres coins du pays, d'autres préfectures. Mmh. Et la preuve, il y avait plus de place dans les hôtels. Tous les hôtels avaient fait le plein. Et donc, cela témoigne quand même de cette popularité autour de ces EVA-là. Et donc, également, il y a eu beaucoup d'affaires. Hein. Quand on a vu pratiquement toutes les grandes sociétés de la place qui ont fait le déplacement de Cara, qui, pour vanter quand même leur savoir-faire ou leurs produits, qui, pour faire du marketing direct, qui, pour vendre également directement des produits. Et on a assisté à beaucoup de manifestations, des concerts. Également, il y a eu une foire dédiée aux EVA-là. Et c'est surtout là-bas qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre producteurs, entre commerçants. Et je pense que les grandes sociétés ont profité quand même pour exposer leur savoir-faire. De même, on a vu des écoles, hein, des écoles privées, hein, qui ont distribué beaucoup de prospectus, de flyers, et pour attirer, puisque nous sommes en vacances, bientôt la rentrée, et donc les gens ont voulu attirer les parents et les élèves vers eux, puisque ce sont pour la plupart des écoles professionnelles, des écoles ou des universités privées qui ont proposé beaucoup de choses. Au-delà, vous savez, autour des luttes EVA-là, dans chaque canton, vous avez des marchés occasionnels qui ont été érigés. Ça a permis également aux autochtones aussi de sortir hein, leurs produits, quitte à faire un peu hein, de plus-value. Et donc, tout s'est bien passé.
Tout le monde en a profité.
En a profité. Et donc, je crois qu'également, le chef de l'État, même si à la fin des EVA-là, le dimanche, il a reçu les EVA-là et les AOSA, et au cours de leurs échanges, il leur a dit qu'ils n'étaient pas en meeting politique. Certes, et je pense que sa présence même, parce que déjà en le voyant discuter avec ces jeunes, d'abord quand il est arrivé, il y a une barrière qui a été érigée, mais il a demandé qu'on l'enlève carrément et qu'on fasse venir les jeunes vers lui. Et pourtant, il nous dit qu'il n'était pas en meeting politique, c'est lui qui a parlé.
Reste
maintenant, au-delà, vous avez peut-être regardé aussi sur les réseaux sociaux des échanges entre politiques, ceux qui étaient membres du parti au pouvoir et qui sont aujourd'hui en défection ou qui ne sont plus en odeur de sainteté, discuter avec les nouvelles autorités ou les ministres actuels, etc. C'était des moments très palpitants et les gens en ont beaucoup discuté dessus. Je crois que ces EVA-là ont permis quand même beaucoup de contacts. Question de nous montrer quand même qu'il n'y a pas d'animosité entre eux, et, etc.
D'accord.
Donc, c'est pour dire que les EVA-là 2023 se sont très bien passés.
D'accord, merci Eric pour ce bilan. Alors, en marge de ces EVA-là, il y a eu beaucoup d'activités menées par des membres du gouvernement. Il y a eu des inaugurations. Il y a eu des visites de terrain pour voir un peu ce que les femmes font comme projet. Ambroisine Memédé, n'est-ce pas ça, joindre l'utile à l'agréable?
Bien sûr, c'est bien. Le côté qui, moi, m'intéresse, c'est cette foule que draine cet événement aujourd'hui. Incontestablement, un événement qui draine une foule immense. Et Eric l'a dit tout à l'heure, il y a des opérateurs économiques, des sociétés, des grandes sociétés de la place qui vont pour exposer leurs produits, vendre l'image de leur société. Il y a des gadgets qui se distribuent, il y a des consultations qui se font, il y a des négociations, le côté business de la chose. Et c'était on dit que c'est la présence permanente du chef de l'État qui donne ce cachet spécial à cet événement-là. Oui, et c'est bien. Et s'il en est ainsi, pourquoi le chef de l'État, et ce serait bien d'ailleurs que le chef de l'État aménage son agenda pour être présent à d'autres fêtes traditionnelles, pourquoi pas, bon, je cite comme ça, au Bouizan, au Haïzan, au Epeyekpe, qui n'est pas très loin des fêtes les plus connues du pays, pour marquer également de sa présence ces fêtes-là, pour rehausser l'éclat de ces fêtes, parce que à côté de ces fêtes, il y a un volet économique qui se développe progressivement, lié aussi au tourisme qui se développe, et je pense que c'est quelque chose de très bien. Et si le chef de l'État arrive à marquer sa présence sur deux ou trois fêtes traditionnelles du pays, et que ça arrive d'ici 10 ans, on arrive à avoir le même effet, la même foule, parlant des opérateurs économiques, parlant des banques qui viennent, parlant de toute cette ces entreprises qui viennent sur un marché, on va dire, une sorte de foire. Hein. Quelque part, il y a le côté culturel, mais le côté culturel donne un éclat vraiment à la chose. Je pense que si d'ici 10 ans, on peut compter à côté de Evala d'autres fêtes traditionnelles qui arrivent à mobiliser autant d'opérateurs économiques, je pense que ce serait bien pour l'économie. Et il y a beaucoup de choses qui vont aussi se greffer autour. Des hôtels qui vont commencer par s'ériger dans ces localités-là. Il y a un tourisme qui va se développer également. Il y a une main-d'œuvre locale qui va aussi saisonnière, mais quand même sur ces événements-là. Et je pense qu'on est gagnant, si vous voulez, là.
D'accord. Isidora Color, l'Ambroisine a fait une belle proposition. Si le chef de l'État pouvait s'impliquer aussi dans les autres fêtes traditionnelles, ça pourra créer autour de ces fêtes de l'engouement et naturellement bénéficier aux autochtones, n'est-ce pas?
Là, c'est le problème. Quand on parle de fêtes traditionnelles, il faut être de cette région ou de cette coutume. Est-ce qu'il ira présider Epeyekpe? Il n'en connaît rien. Peut-être au niveau de sa maman à Agou, s'il y a une fête traditionnelle là-bas, il peut se prévaloir. C'est ça le problème. Faut y assister à hériter d'une patate chaude qu'il essaie d'entretenir. Ce n'était pas le cas depuis 2005. Aujourd'hui, il a pris de l'allant et il veut s'imposer. Ça, personne ne peut le reprocher quoi que ce soit. Je constate tout simplement que depuis le temps des Yadema, père, ou Nassimbe père, au fils, Evala est devenu un centre commercial, un centre de négoce, tant commercial que politique et administratif. Ce qui fait que tous les directeurs ou directrices généraux doivent répondre à l'appel quand il s'agit d'Evala. Faute de quoi, tu n'es pas des nôtres. On te change par quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est tout le drame auquel nous assistons aujourd'hui. Mais ça ne vient pas de Fort Nassimbe. C'est pour dire qu'il a hérité d'une patate chaude qu'il essaie d'entretenir. Bref, comment appelle-t-on Evala est à quelle édition? Ça ne dépasse pas 30 éditions.
Bien sûr, au-delà.
Dis-moi.
Au-delà, je crois.
30 ans, ça peut dépasser. Hein?
Ouais, ça dépasse, forcément.
Combien? Et Adema était arrivé en 67, Ouais, c'est 10 ans après que...
Il n'y avait pas Evala.
Il y avait Evala, mais ça n'a pas eu cette ampleur.
Même si c'est 10 ans.
C'est 10 ans après.
Disons,
à partir de 77, 80, qu'Evala a pris de l'ampleur.
Mais ça doit dépasser 30 ans.
Bon.
Même si c'est 10 ans après, même ça, ça dépasse 30 ans.
Même si c'est 50 ans, il y a des fêtes traditionnelles qui dépassent même toutes les fêtes traditionnelles du continent. Et Pépé, qui a sa 360e édition. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On va nous dire qu'on ne fait pas de marketing et économique autour de la chose. On n'en a pas besoin.
Pourquoi? Pourquoi on n'en a pas besoin?
On n'en a pas besoin.
Mais bien
pour
sûr.
La simple
bien
raison,
bien
pour
sûr,
la simple raison.
Bien sûr
pour la simple besoin. Raison, tu parles. Laisse-moi terminer.
Allez-y.
Tout petit que j'étais dans les années 70. Mais les gens venaient dormir dans les rues. Quand il s'agit de Pessoa, ça drainait des foules. Roger Guy Folly, quand il était aux affaires au niveau de RF et quand radio la Voix d'Amérique, mais tout le monde drainait, toute une foule. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est comment dirais-je la politique qui est entrée dans ça pour émousser l'ardeur de Pessoa? Je suis de cette région, je le reconnais, mais ça ce n'est plus
comme avant.
Et comme Ambroise le disait,
Ambroisine
plutôt le disait, n'eût été la présence de Fogna Singbe, mais il n'y aura pas de foule à Kara depuis le temps d'Eya Dema. Mais est-ce qu'on a besoin des autorités politiques pour donner une onction populaire à nos fêtes traditionnelles? C'est la grande question.
C'est la grande question.
La question que je pose à tout le monde.
D'accord.
Pour moi, c'est tout à fait normal. Lorsque vous avez vos fêtes traditionnelles, qu'est-ce que vous proposez? Puisque nous disons que la culture est un pan essentiel de notre économie, qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs? Parce que vous ne pouvez pas dire que parce que c'est une fête traditionnelle qu'il ne faudrait que des autochtones pour venir fêter. Non, il y a des cérémonies auxquelles les visiteurs n'assistent pas. Mais ce qu'on montre au public, tout le monde peut y assister. Et c'est ce qui se fait. Je crois que, fondamentalement, lorsque nous voulons que notre fête traditionnelle soit rehaussée, il faudrait faire autour de ça un marketing, je dirais, très agressif. Et là, je pense que les gens nous suivront. Aujourd'hui, quand il y a EPEP, mais il y a également foule. Quand il y a Agbogbozan, il y a foule. Sauf que le chef de l'État ne vient pas de cette région, mais il va à Kara, dans la Kosa, parce que c'est sa région. Il est de là-bas, il assiste à ça. Et donc, les gens profitent. C'est tout à fait normal pour aller, comme il a dit, puisque c'est le titre de notre papier qui dit « Sous l'ombre de Fogna Singbe », c'est-à-dire que quand vous regardez tout ce qui se passe, vous savez que les gens sont là pour
des négoces.
Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Peut-être que c'est des occasions à ne pas rater. Le chef de l'État est peut-être disponible en ce moment pour discuter avec les gens beaucoup plus à Lomé.
Et alors,
les gens en profitent. C'est pas une raison pour dire que toute l'administration doit se déplacer pour aller à
c'est
Kara.
Du factuel.
Non.
C'est un fait avéré.
Je vous retire la parole. Ambroisine Emélie.
Je veux dire, le chef de l'État, il est le président de la République.
Le président de tous les Togolais.
Il est le président de tous les Togolais. Et sa présence à telle ou telle autre manifestation n'a rien de mauvais. Et le voir à Kara, parce qu'il est de la région de la Kara, bon, c'est bien.
Et il siégeait.
S'il venait à Pépé, qui va le chasser?
personne.
Personne. Et sa présence ne donnerait-elle pas un cachet un peu spécial à la chose? Si. Et si on peut surfer sur ça pour vendre notre culture,
pourquoi pas?
Pourquoi pas? Maintenant, moi, je parle du côté. Je sais que PIP se vendait depuis.
Il faut faire et plus. On peut inviter le chef de l'État.
Ce que je disais, c'est que si le chef de l'État, par sa présence, peut accorder c'est pas grave, mon frère. C'est pas grave. Si sa présence peut rehausser le clat d'une fête, permettre à l'image du pays d'être plus visible, permettre aux opérateurs, ces banques, ces sociétés qui viennent et de se déplacer également à l'occasion d'une autre fête, ce n'est que bien. Et que le chef de la République, le président de la République soit à Rogozan, à Bobozan, au Pépé, je trouve que cela montre qu'il est le président de toutes les traditions, il est le président de toutes les régions, il est le président de tous les Togolais et qu'il peut aller, ne serait-ce que serrer la main aux dirigeants, aux autorités locales, profiter pour voir comment ça se fait. Aujourd'hui, vous avez des chaînes qui présentent même ce que font le côté même rituel des choses sur des télés. Comment ils font pour rentrer dans les couvents. J'ai vu jusqu'à un certain niveau donné de Akpema. Mais aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas vu ces choses-là, le côté très rituel de la chose. Et c'est bien parce que, et je vais un peu extrapoler, vous voyez aujourd'hui des images que nous recevons sur les réseaux sociaux, ce sont les blancs qui soufflent du solabi sur les vaudous, on se demande comment ils ont appris les incantations et tout ça. Là.
C'est un marketing.
Si ce marketing peut nous profiter. Si aujourd'hui, avec Evala, je sais qu'il y a des sociétés étrangères qui sont représentées au Togo, vous n'allez pas me dire que ces sociétés-là, à leur siège là-bas, on n'a pas un petit regard sur Evala, on n'en a pas eu. Non, mais si ce marketing peut permettre à valoriser l'image de notre culture.
Permettez, nous sortons de ce sujet.
Je ne suis pas dans l'idée de le côté très politique. J'ai parlé du côté économie nationale.
Les industries culturelles, on en a besoin.
Merci, Ambroise.
Des industries culturelles, on en a besoin. Et c'était le cas de Wilson Baron, qui avait proposé à Kofin la divinité noire. Seulement, il s'est mal pris. Et je lui ai dit ça. Si on fait du marketing politique ou culturel, c'est différent. Donc, c'est culturel. Ce n'est pas culturel.
Bien sûr.
Il faut faire la différence.
Je suis dans le volet culturel qui permet à l'économie de prendre
pourquoi ça n'a pas prospéré.
D'accord, merci à vous
tous. Il ne faut pas mélanger les deux.
Merci, nous sortons de ce sujet.
Bien.
Merci beaucoup. De la culture, nous allons au sport pour parler du tirage au sort des éliminatoires mondiales 2026 qui loge le Togo dans le groupe B aux côtés du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Soudan et du Soudan du Sud. Alors, Eric Johnson, quelle équipe selon vous sera à la taille? Enfin, quelles sont les équipes qui sont à la taille du Togo dans ce groupe B?
C'est le Sénégal, tout simplement. Donc, pour moi, le Togo doit bien préparer les matchs aller-retour contre le Sénégal, parce que les autres équipes sont à notre portée. Je crois que il ne faudrait pas.
Il y a la République démocratique du Congo dans le lot.
Et ce n'est plus cette équipe-là dont on avait peur dans le passé. Et je crois que la RDC est prenable, le Soudan également, oui, bien sûr. Sauf le Sénégal qui aujourd'hui fait beaucoup de prouesses, aussi bien sur le plan africain qu'international. Et donc je crois que le staff de l'équipe nationale doit forcément très bien préparer ces éliminatoires. Le Togo, vous savez, on va certainement faire un grand tournoi. Je l'avoue parce que vous savez, avec les difficultés qu'on a eues pour ne pas pouvoir participer à la CAN prochaine
en Côte d'Ivoire.
Je pense que les autorités sportives de football quand même sont conscientes de la chose et ça va nous permettre de bien nous préparer.
D'accord. Alors Isidore, est-ce que vous partagez cet optimisme de Eric Johnson? Est-ce que notre équipe nationale a des chances de s'en sortir dans ce groupe?
Je dis que c'est un optimisme béat que nous saluons en tant que Togolais. Mais je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas parce que il y a de cela 20 ans, quand on avait gagné le Sénégal, on avait une équipe avec des ossatures. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Paulo Duarte essaie de faire quelque chose. Qu'on dise que bon, le 11 national togolais, c'est ce qu'on en 72, c'est ce qu'on appelait les éperviers. Qui peut me dire les ossatures, les attaquants, le milieu et la défense? Personne. On surfe sur tout le monde. On a vendangé pratiquement 7 ou 8 années avec le sorcier blanc. Et prêtez-moi le nom, et Claude roi. Qui n'est plus le roi, qui n'a jamais été le roi. Et mais, on a dit qu'on veut faire. On n'a jamais constitué une équipe après la Adebayor, j'ai vu Touré, toutes ces choses-là. On n'en a plus.
Ouais.
On n'en a plus. Il n'y a plus de pépinière. J'étais de ceux qui disaient que, attention à la chose. À l'allure, les choses évoluent. Le Togo risque de perdre toutes ses compétences. Alors que les jeunes qui sont recrutés, mais ont de la valeur, des choses à proposer. Mais imaginez combien de rassemblements on fait pour aller à un match. Et toute l'équipe se résume sur les expatriés. Parce que notre compétition nationale n'est pas en bonne posture. On n'a pas une compétition. Prêtez-moi le mot. Je cherchais ça.
Le championnat.
Mais je me rappelais quand l'Allemand disait votre championnat là. Mais c'est ça ce qu'on vit. Il y a des ressources en interne. Au moins, si on dit que on sélectionne 22 joueurs, qu'on puisse trouver au moins 12 au niveau national dans notre championnat et greffer les autres. Mais on prend des gens qui cirent les bancs. On dit qu'il est de tel club, UP, mais qui n'a jamais joué, qui n'a pas la compétition dans les jambes. Mais à quoi nous assistons? Moi, j'ai vécu l'étape de Kaolo, dès Hilaire. Mais moi, je suis nostalgique de ces choses-là. Quand les Béninois ou les Daroméens à l'époque traversaient les frontières pour venir voir les matchs entre Étoile Filante et Dito ou Modèle et autres. Dans les années 74.
Ou c'est Massi.
Ou c'est Massi. Bon, c'est Massi, c'est nouvellement. Nouvellement. Donc. Bon, vivement, je me dis que c'est un objectif BA auquel nous y adhérons sans grande conviction.
Non, je crois que Isidore a parfaitement raison. J'explique un peu ce qu'il était en train de dire en long.
Oui.
C'est tout simplement parce que aujourd'hui, quand vous prenez l'équipe nationale, vous êtes incapable de dire voilà le 11 de départ. C'est tout simplement ça. C'est vrai, nous ne connaissons pas assez tous ces joueurs-là parce que véritablement, c'est des joueurs qui ne jouent pas tout le temps ensemble ou qui ne font pas une carrière en tant que tel, puisque le championnat national est diminué et également ceux qui sont à l'extérieur reviennent très peu pour accompagner ceux qui sont là. il a parfaitement raison. Mais moi, je suis en train d'analyser la situation par rapport à ce que nous avons vécu depuis pratiquement 5 ans. Aujourd'hui, on est en train d'avoir une équipe. Et si vous regardez bien, c'est des échecs. C'est des échecs que nous avons eus pendant tout ce temps-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir la tête de l'eau. Et moi, quand je regarde ce qui se fait aujourd'hui avec les joueurs qu'on a, je me dis, je reste toujours optimiste.
D'accord. Alors, les supporters togolais ont plusieurs fois été déçus. Ils doivent en entendre beaucoup du sélectionneur Paul Duarte pour ces éliminatoires, n'est-ce pas, Ambroisine?
Oui, bien sûr. Je ne suis pas tellement spécial, vraiment spécialiste, mais je pense qu'il va falloir travailler. On dit, il y a un romancier qui a dit que c'est à force de réfléchir que la vieille femme parvient à transformer le miel en biel. Je crois que c'est de Seydou Badian. Et c'est ce que les éperviers vont devoir faire. Et l'équipe de Paulo Duarte va sérieusement se mettre au travail. Et aujourd'hui, on doit dire qu'il y a plus de petites équipes. Quand je jette un coup d'œil à ce qui s'est passé au niveau des éliminatoires de la CAN avec les Guépards, face à comment les Guépards ont tenu tête au Lion de la Teranga, je me dis, c'est véritablement pas le travail qu'on va y arriver. Il faut se décider, se dépoussiérer et véritablement se mettre au travail. Et c'est mieux qu'à ce prix-là qu'on pourra faire des prouesses, sérieusement préparer ce mondial-là, cette compétition-là, et véritablement arriver. Donc c'est le travail. Et quand on jette un coup d'œil à notre prestation qui n'est pas réellement à ce qu'on peut dire vraiment réjouissant, et dans ce groupe-là, le champion en titre avec Sadio Mané, je vais dire que véritablement il faut travailler, et ce n'est que ça qui va nous permettre d'avancer, je crois.
Parce finalement, vous êtes une spécialiste.
Non, je n'en suis pas vraiment spécialiste.
Alors, nous changeons de sujet. C'est la fin des mesures sanitaires décrétées en 2020 par le gouvernement togolais pour limiter la propagation de la COVID-19 à l'aéroport international Niassimbe Yadema de Lomé. À l'arrivée comme au départ du Togo, il fallait présenter une preuve de vaccination, faire son test PCR ou antigénique. Eh bien, tout ça est derrière nous à présent. Ces mesures viennent d'être levées. Alors, Eric Danson, cette décision doit être un soulagement pour les voyageurs. Vous vous souvenez certainement que beaucoup se plaignaient des désagréments causés par ces mesures.
Nous avons un problème au niveau de l'aéroport international Niassimbe Yadema. Vous savez, beaucoup de gens ne descendent plus à Lomé. Ils préfèrent aller au Bénin ou au Ghana.
À prendre un véhicule.
Et prendre un véhicule, même si ça leur coûte 25 000 ou 50 000 francs, ils préfèrent cela avant de rentrer au pays, tout simplement parce qu'il y avait trop de mesures, surtout en ce qui concerne le coronavirus. Si le gouvernement a pris sur lui de lever ces restrictions-là, je pense que c'est une bonne chose et ça va permettre quand même aux gens de pouvoir arriver finalement à Lomé. Parce que déjà, lorsqu'on demande aux visiteurs de remplir électroniquement les fiches d'entrée au Togo, c'est un peu même difficile pour les gens. Les gens commencent parfois, c'est la connexion qui décolle. Parfois, et surtout cette histoire de test de coronavirus, les gens ne comprenaient pas grand-chose. Alors que, par exemple, autour de nous, c'est la même chose qui se passe, mais avec le coronavirus, les gens ont abandonné ce truc-là depuis. Et je crois que c'est une très bonne chose. Ça va permettre aux gens de pouvoir rentrer librement, surtout nos compatriotes qui sont à l'extérieur et qui souhaiteraient passer de belles vacances en famille dans leur pays.
Alors, Isidore Colomb,
on a mis la charrue avant les bœufs. La question simple que je me pose, est-ce que l'état sanitaire et l'état d'urgence sanitaire est révolu? Ah ouais.
En tout cas, l'OMS a annoncé la fin de la pandémie.
Mais n'oublions pas que nous sommes souverains et que l'Assemblée a donné une année pour l'état d'urgence sanitaire. Et c'est pas là qu'il fallait commencer. Ce qui circule sur les réseaux là, je prends ça comme avec des pincettes. Il n'y a aucun arrêté, il n'y a aucune décision pour dire que c'est le gouvernement qui a fait telle chose. Non, écoutez, dans quel pays sommes-nous? Nous voulons construire un état de droit. Il va falloir que l'Assemblée prenne ses responsabilités pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Et c'est par là que nous allons déployer les autres mesures. J'en ai terminé.
D'accord. Alors, on va m'aider. Est-ce qu'il n'y aura pas des risques associés à la levée de ces mesures sanitaires quand on sait que le virus circule encore?
Alors, je ne suis pas médecin et je vais dire si ces mesures ces mesures ont été levées, effectivement levées, c'est qu'il y a eu d'abord des préalables, des analyses qui ont été faites. Et si la COVID a été déclarée aujourd'hui, si tout a été, on a mis fin à la COVID d'aujourd'hui, c'est également suite à des analyses qui ont été faites au niveau de l'OMS. Et je pense que c'est des mesures, des nouvelles à saluer, parce que cette COVID nous a fait perdre beaucoup de plumes sur beaucoup de plans. Et parlant de risques, aujourd'hui, quand on sait que nous avons atteint le niveau, je me perds un peu,
de vaccination, vous l'avez dit.
Voilà.
On parlait en tout temps de l'immunité collective.
L'immunité collective. Voilà. Et donc, il n'y avait plus vraiment de risque. En tout cas, ici, et je pense que, parlant de danger, bon, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de danger non maîtrisable.
D'accord.
Nous sommes avec tous les journalistes. Interpellons l'Assemblée.
Bien sûr,
à revenir sur cette décision d'accorder une année d'urgence sanitaire ou de cas d'urgence sanitaire au gouvernement qui est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais c'est par là qu'il faut commencer. Si on nous prend aussi en compte. Mais sans cela, je reste dubitatif de ces mesures.
D'accord. Éric Johnson,
oui.
L'état d'urgence sanitaire n'est pas encore levé, mais il y a beaucoup de restrictions que le gouvernement a déjà laissé tomber. Voilà, est-ce que forcément il faut lever
cet état d'urgence? Il faut peut-être voir le volet politique de la chose. Aujourd'hui, on va, puisque il y a, je crois, 2 ou 3 mois, on parlait encore d'une nouvelle forme de ce virus-là. Excuse-moi,
Isidore. Allez-y, Eric.
Qu'on a découvert en Afrique du Sud, en Hollande, etc. Mais si on arrêtait l'état d'urgence sanitaire aujourd'hui et que cette nouvelle forme de virus atteignait encore le pays, je pense qu'il sera très difficile de revenir sur les mêmes mesures. Je pense que en levant ces restrictions-là par secteur, je pense que c'est également une très bonne chose en attendant de voir finalement la fin totale, parce que il y a certains pays qui demandent encore des tests de Covid.
Effectivement. Ce ne sont pas tous les pays
qui ont levé cette restriction. Oui. Donc, on contrôle encore les vaccinations au niveau des frontières dans certains pays. Donc, ça veut dire que malgré la fin du coronavirus annoncé, les États prennent encore des mesures pour ne pas être envahis un peu plus
ça
tard.
Ça suppose que l'OMS, l'OMS n'est plus compétente pour nous donner des orientations.
Non, mais
bien sûr.
Ah oui, c'est ça.
Quand
si tel est le cas, d'accord, allons-y, on dissout l'OMS.
Non.
Il y a une certaine moyenne qu'il prenne en compte.
Mais c'est la référence. C'est la référence internationale.
S'il vous plaît,
s'il te plaît.
Quand la référence internationale donne des orientations, l'OMS, qu'on a commencé, le Togo n'était pas dans cette dynamique auparavant. Quand on parlait, même quand on parlait de sida à l'époque, je me souviens comme c'était hier. C'est l'OMS qui imprime.
Mais si on dit, si on dit que les mesures sont levées, est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour chaque pays de faire une évaluation pour voir l'étape interne, où on est? Alors, ça ne veut pas dire que 100%
n'a plus, compétence.
Je n'ai pas dit ça. L'OMS a compétence, mais l'OMS se base sur des statistiques données, sur certains points, pour dire. Globalement, je pense que c'est sur ce thème de la de façon générale.
Tu parles à que présidente de rêve
et c'est sûr, c'est à base de
ces chiffres. Mais d'accord, mais au plan local, mais permets-moi de te dire qu'au plan local, il revient à chaque pays d'évaluer à quel niveau on est. Par rapport à cette maladie-là et par rapport à ce que l'OMS a dit, qu'est-ce que nous on peut dire? Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est à 100%? Il y a des pays qui vont continuer encore, mais globalement, on ne peut pas dire que sur 100 pays, on a 85 ou 90 qui ont pu atteindre un certain niveau qui nous a permis de lever les barrières et que les autres ne continuent pas. Mais non,
s'il vous plaît, nous allons clore ce sujet.
On a répété tous les tests.
Sortons de ce sujet, je vous en prie.
Oui, je crois.
Sortons de ce sujet.
Non, ne relançons plus ce débat.
Il y a toujours débat.
De quoi
il y a toujours débat.
Deux secondes pour sortir de ce sujet.
Que ça soit inventé ou pas, il y a des restrictions.
Ce débat nous dépasse.
On est en train de lever les restrictions secteur par secteur. Je dis c'est une très bonne chose et à la fin on va lever l'état d'urgence sanitaire.
J'avoue que je regrette d'avoir de me faire vacciner.
Merci.
Je regrette de l'avoir fait.
Ah bon?
Oui, je regrette.
Je vous en prie. Parlons à présent d'un phénomène qui prend de l'ampleur à Lomé et auquel l'agence Savoir News a consacré un article. Il s'agit d'un reportage intitulé « Togo, vague de petits enfants mendiants dans les rues de Lomé », un phénomène inquiétant. Alors, Ambroisine Némédé, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce reportage?
Alors, je vais vous appeler à aller lire le reportage. Je vais me contenter de vous dire que c'est un sujet, tout le monde voit ce qui se passe.
Juste un aperçu.
Voilà. Vous avez dans les différents as de Lomé des enfants de bas âge, de très bas âge, 5 ans même, qui demandent, qui mendient, attrapent le pan de vêtements des gens sur des motos, se collent aux vitres, attrapent des émigrants, ils demandent de l'argent. Et vous voyez que ces enfants sont pour la plupart déposés par leur maman. Moi, un jour, j'allais au bureau. Et j'ai vu la maman qui tenait un bébé et qui est venue déposer un enfant d'à peine 6 ans. Et en même temps, l'enfant a commencé par faire la main comme ça, demander de l'argent. Et ça m'a un peu choquée. Ce que nous connaissons de la mendicité, les mendiants, c'était des personnes âgées. Ce n'est pas des enfants.
Et donc, invalides.
Oui, invalides pour la plupart. Et des gens de certain âge. Aujourd'hui, ce sont des enfants qui mendient. C'est aux parents de mendier pour nourrir leurs enfants et pas le contraire. Et donc, ça a fait l'objet d'une conférence de rédaction et on s'est dit qu'il faut aller sur le terrain pour voir ce qui s'y passe réellement et en parler. Et donc, nos deux journalistes, Christelle Messin et Bernadette Aïbé, qui ont fait ce reportage-là pour mettre la lumière sur ce phénomène et qu'on dit qu'il faut vraiment lutter contre ce phénomène. Dans certains pays de la sous-région, les autorités ont commencé par taper du poing sur la table pour lutter contre cette forme de mendicité. Ce qu'on a constaté, c'est surtout des étrangers. Et elles font, ces femmes font beaucoup d'enfants. Vous les voyez en train d'allaiter. En même temps, il y a des enfants qui sont là. D'autres qu'on chasse va demander de l'argent. Et elles sont assises et elles attendent. Et quand on a posé la question de savoir comment ça se fait, en fin de journée, tel enfant qu'on a déposé à tel carrefour amène à peu près telle somme, l'autre qu'on a déposé un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'elles déposent les enfants au niveau des feuilles tricolores, au niveau de la circulation. Et c'est ça qui a été vraiment choquant pour nous. Le fait de voir des enfants tout le temps mendier sur nos routes, des enfants de très bas âge et à côté des parents assis pas très loin et attendant les enfants ou les chassant à aller sur la voie. Et c'est ça qui nous a amené à faire ce reportage-là qui, ma foi, il faut vraiment essayer.
D'accord. Nous avons encore une dizaine de minutes. Le temps d'aborder...
On ne peut pas passer sous silence ce sujet-là.
Nous avons
je suis désolé.
D'accord.
Non.
Réagissez alors.
Je suis désolé.
Réagissez.
Oui, évidemment, soit d'affaires sujet transnational, d'investigation. Moi, je suis cette piste-là. Parce que ils ont fait un reportage, ça concerne seulement le Togo. Mais d'où viennent ces gens-là? Moi, j'ai des sources, j'ai des informations. La plupart sont venus du Bénin. Quand Talon a tapé du poing sur la table, dit que non, je peux voir ces mendiants dans la rue et a fait des démarches auprès de Niger, Sénégal, Burkina et autres. Et dit que bon, ceux qui ne peuvent pas faire le travail, bon, on les met en apprentissage. Et ils ont tous déserté pour venir au Togo. Donc, moi, ça doit faire un sujet transnational.
Est-ce que c'est seulement au Togo?
Non, pas ce que j'ai dit, transnational. Voilà. Pour couvrir toute la région. Et on voyait cette chose-là avant au niveau de d'Apaon. Et, excusez-moi, c'est les talibés. Oui, oui. C'est les musulmans qui envoient les élèves allez, qui sont à Maganata, l'école coranique, pour aller mendier.
Un peu comme au Sénégal.
Au Sénégal, mais le Sénégal a effacé ça d'une manière ou d'une autre.
Ce n'est pas encore fini totalement.
Ce n'est pas fini totalement. Mais aujourd'hui, il y a un laxisme au niveau du Togo. Nos autorités ne prennent pas ça en compte. C'est en cela que j'interpelle le ministère de la Défense. Jacques Darivan, pour pouvoir...
De la sécurité.
De la sécurité.
Les frontières.
Oui. Mais tous ces éléments-là sont venus au Togo. Mais elles partent tantôt des femmes. Il y a les parents, les maris qui sont derrière. Allez-y, au niveau de Flo Jardin. Vous allez voir les maris, les géniteurs. Je ne parle pas de maris, les géniteurs. Qui sont là-bas en train de déguster des viandes et autres là.
C'est une forme d'exploitation.
D'accord. C'est une exploitation. Et j'interpelle le gouvernement togolais à pouvoir se positionner et éradiquer ça du Togo.
Merci Isidore. Récemment, il y a eu un nombre important.
Mais on y reviendra. On y reviendra.
D'accord. Qui a été rapatrié au Niger, mais finalement, ils sont revenus. Alors, est-ce que cela ne pose pas, comme l'a dit Isidore, le problème de contrôle au niveau de nos frontières? Éric Nyonson.
Pas seulement. Vous savez, Isidore disait que tout à l'heure que les gens sont arrivés du Bénin parce que Talon les a renvoyés. Oui. Mais
les a renvoyés.
Mais bien renvoyé. Avant, je dis renvoyés. Mais bien avant, ça existait. Ça existait et c'est surtout au niveau du sud Lomé qu'on voyait ça, c'est-à-dire une population qui se trouve au niveau derrière le boulevard DCI. Le boulevard du 13 janvier et donc avant c'est à ce niveau on voyait beaucoup de mendiants et encore que c'était comme si les gens étaient plus organisés et c'est surtout les vendredis que vous les voyez devant les mosquées en grand nombre. Mais dans la semaine, vous les voyez assis, alignés parce que des gens viennent faire
les aumônes.
Et donc ça a pris de l'ampleur à partir des années 90, où finalement avec les vendeurs à la criée dans les carrefours, eux aussi ils viennent s'y installer et percevaient les dons. Ça permettait également à ceux qui font les aumônes de ne pas aller directement devant les mosquées, mais de partager déjà à partir des carrefours. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est vrai que en ce moment-là, ce problème-là se passait avec beaucoup d'acuité dans les pays de l'Interland et surtout également au Sénégal. Au Sénégal, où Isidore l'a dit tout à l'heure, ce sont les talibés. Et c'est des maîtres coraniques qui envoyaient ces enfants-là pour aller mendier et leur rapporter tout ce qu'ils ont le soir. Et donc, ça a été un grand débat au Sénégal surtout.
Je me rappelle même, il y a quelques personnes, enfin un groupe de personnes qui a été rapatrié au Niger, et ça a créé des polémiques.
Bien sûr. Voilà. Pas seulement au Niger, mais également au Burkina et en Mauritanie aussi. Vous savez, comme c'est des pays fortement musulmans, ça se comprenait. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur carrément, et il faudrait forcément, nous l'avons souvent dit, qu'il faut que nos autorités prennent cela en compte et qu'on essaie de diminuer ne serait-ce que le nombre de ces...
Ce qu'il faut ajouter, quelques secondes, ça fait des émules, ça fait des émules. Il y a des émules, et permettez, je vais terminer. Ça fait des émules, même les autochtones. Quand vous voyez le tronçon des cons, jusque là, c'est les autochtones. Ça fait des émules. Moi, j'ai fait l'enquête au niveau.
Eric Digo, Aguazongo, Eric Tanande, qui me suit, qui dit qu'ils sont très nombreux maintenant. Eric, je disais qu'Eric qui nous suit, qui dit qu'ils sont très nombreux maintenant au niveau de Aguazongo Terminal, où l'on les déverse chaque jour par conteneur comme de marchandises. Merci à toi.
Ça fait des émules. C'est un problème sérieux. C'est contagieux. Et les autochtones s'y mêlent. Allez-y au niveau de Décon, vous allez voir, c'est les autochtones. Ce ne sont plus les étrangers.
D'accord, merci pour ce sujet intéressant. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet. Alors, il nous reste encore 3 minutes. C'est le temps de faire un tour de table pour parler de la DMK, la dynamique Monseigneur Kodjo, qui a fait une sortie médiatique samedi dans laquelle elle exige le retour de son leader avant la tenue de toute élection. Réaction, Eric Johnson.
Mais c'est tout à fait logique, non? Quand vous êtes un parti politique et vous aspirez un jour diriger le pays, et si votre premier responsable n'est pas là, je ne vois pas qui d'autre pourra tenir les flambeaux de votre parti. Donc la DMK est dans sa logique de demander, c'est tout à fait normal, de demander le retour au pays de son leader. Toutefois, la DMK avait déjà annoncé qu'elle ne participerait pas aux élections en vue. Et là, je me demande si ce parti-là a changé, sinon si cette coalition a changé de position. Est-ce que si le leader revient au pays, la DMK va participer aux prochaines élections? Donc, c'est la question à laquelle moi, je cherchais une réponse. Quand j'ai appris cette sortie de la DMK.
D'accord. Isidore Akolo. Je suis dans la Bouyamini. En ce sens que je n'arrive pas à faire le distinguo entre DMK et DMP.
Oh là là.
Est-ce que c'est un caillou lancé dans la chaussure de DMP? De la DMP qui s'est dissociée de la logique de la DMK, qui depuis disait que bon, il n'y aura plus d'élection au Togo sans le retour du réfugié de, comment dire, du champ de maïs. Mais il est où?
Il arrive.
il est où? Il est au Togo? Il est où? Moi, je pose cette question. Est-ce qu'Agboyome a quitté le pays? C'est la grande question que je me pose. Le chat de maïs se trouve où? Et depuis, il n'a fait jamais montre de ta présence, qu'il est en Belgique, en France ou à tel pays. Donc, je suis dans la bouillamounie. Aujourd'hui, qu'on réclame que les réfugiés reviennent, c'est une très bonne chose. Il faut une amnistie, non seulement pour les gens de la CAM, y compris pour les gens de les Tipi et autres là. Qu'on revienne et aller plus loin. Boko, que tout cela, ces compétences-là reviennent au pays. Donc, j'attends de voir. Est-ce que c'est un coq à jambes que la DMK ou le résidu de DMK est en train de faire à la DMP? Et soit nous situera.
D'accord. Merci à vous tous. Il est temps de marquer une pause pour le commercial. Et on revient.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous revenons pour la suite, la dernière partie de cette émission. Nous ouvrons l'antenne aux auditeurs 22 21 33 74, 22 20 19 68, 91 36 63 75. Pas encore d'auditeurs. Je rappelle le numéro. Alors, il y a déjà un auditeur. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour. C'est monsieur? Monsieur
Gérard.
Monsieur Gérard.
Oui.
Ok, allez-y.
Alors, j'interviens à propos du sport du football togolais. Je crois que Eric Johnson, c'est l'air. Vous savez, aujourd'hui, avec ce tirage-là, le Sénégal, la RD Congo et la Mauritanie, même le Soudan même, sont en avance sur le Togo, sur le plan africain. Donc, notre équipe-là, soyons réalistes avec l'équipe. Il faut des joueurs, il faut une formation de base. Et quand on voit notre championnat, on a l'impression qu'on politise le championnat et on veut seulement favoriser deux équipes d'une région. Or, dans cette région-là, il n'y a même pas de stade pour faire venir les équipes de l'international. Ce que moi, je veux dire, il faut rehausser le niveau de notre championnat. Il faut que le championnat soit à un niveau donné. Commencez par la base. Il y a des joueurs, des petits joueurs dans nos équipes scolaires, tout ça là. Il faut rehausser le niveau du championnat scolaire pour avoir une équipe nationale avant d'amener les expatriés. Les gens qui sont là, comme l'a dit Zidane, qui tirent le banc, qui ne jouent même pas. Mais vous voulez amener ces gens-là pour faire quoi devant le Sénégal, la RD Congo et même la Mauritanie? Aujourd'hui, la Mauritanie a une équipe plus compétitive que la nôtre. Donc, nous devons faire, pour revoir le championnat, essayer de dépolitiser le championnat, de donner l'occasion à toutes les équipes nationales, c'est-à-dire les équipes du championnat, toutes les équipes doivent avoir les mêmes avantages que les autres, pour pas seulement donner la chance à deux équipes d'une région pour faire croire que ces équipes-là sont ici. Or, ce n'est pas normal.
Merci, M. Gérard. Un auditeur en ligne? Non, pas encore. 22, 21, 33, 74, 22, 20, 19, 68. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
Oui, c'est Papa Soidiné.
Monsieur Papa Soidiné.
Moi, je voudrais venir sur la question de COVID-19, là.
Oui, COVID-19.
Si on enlève les mesures sanitaires et autres, c'est bon. Puisque ces mesures ont fait beaucoup de mal à la population. Il faut aller voir sur les frontières, les bureaux et autres. Mais si aujourd'hui l'État, ou bien je ne sais pas qui, puisque nos députés n'ont rien dit, ils ont donné un an de mesures sanitaires au gouvernement. Donc on va continuer à souffrir comme ça là, c'est pas bon. Donc on salue la levée de
ce n'est pas levé, hein. Ce n'est pas levé.
Papa, pardon, c'est pas levé.
Non, c'est juste au niveau de l'aéroport, hein.
De l'aéroport.
C'est tout.
Donc on va continuer à souffrir comme ça.
On attend. D'accord. C'est à l'assemblée.
Ça fait beaucoup de richesse aux gens, hein. Merci. Bonne journée.
Merci, Papa Soidiné. Allô. Allô.
Et allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est Nyama.
On vous écoute.
Et salut le plateau.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, monsieur, il s'est passé, c'est un pays cabien, c'est quoi on appelle Tchadjo?
Tchadjo?
Oui.
C'est le chef, non?
Non, c'est Soso qui est chef.
Un prêtre traditionnel. Donc, vous voyez que nos parents, père, à leurs âmes, ils nous disaient que Tibidja Lomida, ça veut dire que le prêtre traditionnel est à Lomé, à la capitale. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est fort clos. Nos traditions sont dans la Bible. Quand on disait que remettez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, nous avons des dieux chez nous. Mais on a perdu nos traditions au détriment de l'argent. L'argent, c'est César. C'est ce que nous voyons dans le folklore des Valas, là. Et ça amène tous les mœurs, tout ça, là, après, voilà, les préservatifs par ici, les hôtels bourrés de... voyez un peu, la guerre entre les prêtres, les dimanches, tout ça. C'est parce qu'on accompagne César.
Voilà.
On est d'accompagner Dieu. C'est ça qui crée cette zizanie. On a besoin de qui pour que la tradition ait lieu. On peut penser que Evala est la seule tradition. Il y a les Kwandana, les Ahwasa, Asapa. Mais pourquoi pas ces trucs-là? Parce qu'on a pris ces filles-là pour en faire du folklore,
marketing,
de l'argent,
marketing.
Au peuple du Nord, et faire venir tout le monde.
D'accord.
Mais voilà brièvement ce que je peux dire à propos d'Evala.
D'accord, merci à
vous. Quant à ce qui concerne les autres cadres-là, je vous laisse gérer.
D'accord, merci d'avoir appelé. 91 36 63 75. Allô? Allô?
Allô, bonsoir.
Bonjour, on vous écoute.
Comment?
Ça va.
Je salue tous les invités.
C'est monsieur?
C'est monsieur Christophe.
Ok, on vous écoute.
Oui, je vais revenir sur le sujet de mendicité là.
Ah,
on en a marre. Parce que ça donne la saleté du peuple, quoi, de notre pays, le Togo. En tout endroit, en tous les coins. On attend. Je demande si le ministre de la Sécurité peut faire une petite communiqué pour nous répéter, nous les jeunes, qu'on a, mais on n'a pas du boulot, pour suivre une petite formation pour leur rapatrier sur la voie publique. Parce que c'est la honte du peuple. C'est trop. On en a marre.
D'accord. Merci, monsieur Christophe. Allô? 22 21 33 74 22 20 19 68. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur Alou.
Ok, on vous écoute.
Concernant la présence du chef de l'État, souvent dans nos cérémonies et autres là, vous savez, moi, j'aimerais juste qu'on se dise des vérités. Les gens n'aiment pas accepter la vérité. Même si quelqu'un te critique, il faut savoir que la personne veut que tu t'améliores. Par exemple, chez nous, en pays Kabyé, moi, je suis de Khmer. Parmi les 16 ou bien 14 cantons que Kara a, souvent, le chef de l'État ne vient jamais dans notre canton. Mais il faudrait que tu sois un Kabyé ou bien tu sois proche de notre culture pour le savoir. Pourtant, on ne sort pas sur les médias le dire. Parce que le linge sale se lave en famille. Que ce soit la présence du chef de l'État, qui ou quoi, l'essentiel est que la tradition doit continuer, la culture doit se faire. Donc, si le chef de l'État est venu quelque part, il n'est pas venu quelque part, il faut qu'on oublie ça.
D'accord.
La culture existait avant lui. Et ça va toujours continuer avant, après lui aussi. Donc, il ne faut pas qu'on marginalise les choses ou bien. On pense que peut-être que c'est quelqu'un qui est d'ici. C'est pourquoi. Que ce soit les raisons, c'est la personne qui le sait. Mais le motif pour lequel vous faites votre cérémonie, continuez-vous pour que vous puissiez avoir votre bénédiction, c'est tout.
D'accord. Merci beaucoup. Bien. 22, 20, 19, 68, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour. C'est monsieur?
Oui, c'est Raphaël.
Monsieur Raphaël, on vous écoute.
Oui, j'appelle depuis le grand marché de Lomé.
D'accord.
Je voulais parler à propos d'un mendiant qui circule un peu partout dans notre ville à Lomé. Si vous arrivez dans les gares routières, les grandes bus qui arrivent du Mali, du Niger chaque jour, les gares routières sont remplies ils arrivent librement, sans contrôle. Donc, il faut que le ministre de la Sécurité prenne ses responsabilités. Il peut envoyer ces éléments dans les gares routières-là pour qu'ils les évacuent ou bien qu'ils les rapatrient immédiatement parce que ça salit notre ville.
D'accord. Donc,
c'est mon point de vue.
Okay. Merci beaucoup.
Merci et bonne émission.
Oui, à très bientôt. Allô? 91 36 63 75 22 21 33 74 22 20 19 68. Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Ah, c'est Comi.
Monsieur Comi,
on vous écoute. Prompte guérison à votre confrère.
Merci beaucoup.
Monsieur Sassgao.
Merci beaucoup.
Deux sujets m'interpètent. Le premier, c'est le football. Quoi qu'on dise, les éperviers que nous avons aujourd'hui ressemblent à des poulets étrangers. Et c'est comme si vous êtes dans un poulailler, vous êtes derrière ces poulets et vous leur demandez de courir, ils n'arrivent même pas à courir. Et on appelle ça communément Yobo Koklo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ces genres de figures pour l'équipe nationale. Donc, mettre l'espoir dessus, c'est pari vaincu d'avance. Sur la question des Covid, je n'arrive pas à nous comprendre. L'OMS, qui a tous les moyens, les restrictions dans les pays où ils ont du matériel, ils ont tout. Vous qui n'avez pas les moyens pour acheter à fond propre un scanner et vous passez par des combinaisons para-privées ou bien, oui, pour pouvoir acquérir un scanner, Vous refusez de lever les restrictions. Vous qui n'avez pas les moyens pour faire vos propres investigations dans les recherches, où les dernières recherches sont restées sur le carreau, on n'a pas eu de résultats, vous tardez à lever les restrictions. Parce que ça vous...
Allô, je crois qu'il est parti.
Allô.
Il est parti, je crois. 22, 21, 33, 74, 22, 20, 19, 68... 91, 36, 63, 75. Allô? 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 Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur?
C'est Armand.
Ok, on vous écoute.
Oui, il faut dire que concernant le football togolais, il va falloir que les gens puissent faire, je ne dirais pas table rase, mais qu'on soit objectif, c'est-à-dire, et puis qu'on puisse aller méthodiquement, c'est-à-dire, on a des techniciens, le Togo a plein de techniciens qui ont montré leur valeur, donc il faut arrêter avec les brisbilles, les histoires de calcul, je ne sais pas quoi, pour qu'on puisse vraiment construire progressivement une équipe qui puisse faire efficacement le travail. Et on l'a vu, ce n'est pas quand même anodin qu'un pays qui a déjà joué une Coupe du Monde soit aujourd'hui à la traîne. Ce n'est pas normal. Concernant les mendiants, c'est bizarre. Dans nos traditions, je prends le Togo, on n'a pas cette mentalité. Donc, je trouve un peu... Je ne sais pas pourquoi les autorités aussi ne prennent pas c'est-à-dire il faut sévir sur ça. Si ces mendiants viennent de quelque part, il faut fermer ce trou. C'est tout. Merci.
D'accord, merci à vous. 22, 21, 33, 74, 22, 20, 19, 68. Le dernier auditeur. Allô? Allô? Allô?
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour, c'est monsieur?
C'est monsieur Maba.
On vous écoute.
Oui, c'est pour intervenir pour les éperviers là. Même si on va faire tout le politique au Togo, au moins le football, on ne doit pas faire le politique dans le football. Pourquoi? Il faut passer avant que les éperviers le jouent pour la CAN. On avait même le meilleur buteur du championnat. On ne l'a pas appelé. Pourquoi? On devrait l'appeler, même s'il va rester sur le banc. Mais on ne l'a pas fait. Mais on a des talents, il peut aller jouer le football. Mais on met le football au politique, celui qui n'arrive même pas à courir, il est dans le terrain, on ne le voit même pas. Mais il y a des gens autrement qui sont là. Mais s'il vous plaît, concernant le football, moi j'aime vraiment le football. Hein. Hein, dis le dirigeant là, il n'a qu'à revoir ça. D'accord. Ça fait très très pitié. Mm. Ça fait très pitié pour le football. Le, nous qui étions quelque part là, aujourd'hui là, nous sommes où? Nous sommes presque rentrés dans le trou. Hein, bon, sur le plateau. D'accord. C'est tout ce que je peux dire pour le football.
Merci à vous. C'est le dernier auditeur de ce jour. Alors, peut-être un tour de table pour réagir par rapport à tout ce que les auditeurs ont dit. Isidore ?
Non, mais ils n'ont que confirmé nos appréhensions, surtout concernant les mendiants qui courent les rues. Il va falloir que le ministère de la Sécurité, au-delà du ministère, mais tout le gouvernement, puisse prendre ce problème à bras le corps. Nous ne serons pas le cadre pour accueillir tous ces gens-là. Quelqu'un vient de le dire, il y a des camions, ou plutôt les bus qui viennent de l'Hinterland qui déversent. Hein? Les microns, c'est ça, c'est eux qu'on appelle les microns au niveau de la Côte d'Ivoire, Abidjan.
Les microbes.
Les microbes.
Les microbes plutôt, les microbes, c'est ça. Mais moi, ils ont envahi, hein? Ils ont tout envahi. Vous allez au niveau de Cinéma Res, la rue avant Cinéma Res. Mais les gens dorment à même le sol là-bas. Ils ont envahi tout le quartier. On ne peut pas les chasser.
D'accord.
Nous n'avons pas cette autorité. Il revient à l'autorité réglementaire de pouvoir sévir. Nous interpellons Général Yak. A fait son travail. Nous n'intéressons aucune religion dans cette affaire.
D'accord.
On va dire que c'est des musulmans. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Si Talon l'a réussi, il faut que Fonia Sigbo aussi réussisse ça. Il faut qu'on copie les bons exemples.
D'accord. Ambroisie ?
Alors, je veux dire que c'est vraiment déplorable qu'on en arrive là. Déjà, nous avons le phénomène d'enfants de rue qu'on a du mal à gérer. Et maintenant que des enfants se retrouvent dans les rues en train de mendier et qu'on a l'impression, hein, lors du reportage, les filles ont demandé, hein, les gens sont prononcés, on dit que bon, on a l'impression que ces dames font des enfants pour les exploiter dans le domaine de la mendicité parce qu'ils en tirent quelques profits.
Ça devient une industrie.
Une industrie qui grandit et donc il va falloir qu'on arrête cela.
D'accord. Éric Danson.
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai été interpellé. Bon, ok, je vais commencer par le football. Je dis, moi, je suis très nationaliste. Je ne vendrai jamais mon pays moins cher.
Personne ne
le fait. Je sais que nous avons des difficultés. Je sais que l'équipe n'est pas encore une équipe soutenue pour être aussi compétitive que cela. Toutefois, j'ai demandé aux autorités, aux encadreurs, au staff, de beaucoup travailler pour que l'équipe devienne ce que nous souhaiterions qu'elle soit. Et je voudrais dire à un monsieur qui a dit qu'on est en train de politiser le football. Je crois que ce débat-là n'a pas sa place du moment où aujourd'hui. Regardez un peu, je sais, il est en train de parler d'Asco, d'ASK et de Semassi, qui sont des équipes du Septentrion, mais qui font des prouesses. Regardez à l'heure où nous sommes, Asco est en train de faire des recrutements, mais les autres équipes, on n'en a pas encore entendu parler. On n'a pas encore entendu dire.
Il parle des moyens dont disposent les équipes.
Écoute, ce n'est plus un débat.
Ce n'est plus un débat.
Mais,
okay. Parce que ce qu'on est en train de dire, les moyens. Mais et les, on était là quand l'ASK, qui est une association des transporteurs.
Dirigée par qui?
Mais c'était pas. Je ne connais pas leur dirigeant.
D'accord,
mais je dis, et cette équipe-là. À commencer par s'organiser très tôt. Il faut le dire, de quitter la troisième division jusqu'à la première division. Et donc, je dis oui, il y a d'autres équipes aussi qui sont là, qui ont des moyens. Mais il faut juste une bonne organisation. en ce qui concerne les mendiants, je dis, il faut faire extrêmement attention. La façon dont le Bénin a pris ce problème-là, je ne crois pas que ce sera de la même façon que le Togo va le faire. Pourquoi? Non, tout simplement parce que, vous savez, il faut éviter aussi des incidences diplomatiques dans des décisions de ce genre. Aujourd'hui, on va dire qu'on a pris des gens parce qu'ils sont de telle nationalité ou telle autre. Vous allez voir même ces gens-là, ils viennent, ils n'ont même pas de papier. Et tout de suite, ce sont des apatrides. Mais vous allez les renvoyer vers où? Il faut qu'on fasse extrêmement attention.
D'où ils viennent, d'où ils viennent.
Ce qui est sûr, il y a un ministère en charge de cela, c'est le ministère des Affaires sociales qui s'occupe de ces cas.
Et peut-être pour terminer rapidement.
pour terminer, je veux dire en ce qui concerne les fêtes traditionnelles, il y a ce que nous connaissons tous, les rituels que les étrangers, les visiteurs ne voient pas. Il y a ça, et après, il y a ce qu'on montre au public. Et c'est là où tout le monde y va. Mais quand on dit qu'on va organiser des fêtes traditionnelles sans visiteurs, sans touristes, sans
cela... On n'a jamais dit ça, s'il vous plaît.
Et un auditeur l'a dit, oui. Isidore. Il faut bien suivre les choses. Tu n'as pas suivi. Si tu avais suivi, tu aurais compris.
S'il vous plaît, terminez.
Il faut qu'il arrête ça. D'accord. Parce qu'en parlant de cette manière-là, nous n'avons pas dit, je ne parle pas de toi. Ce sont les auditeurs qui ont intervenu et nous sommes en train de réagir.
D'accord.
Et donc, quand un auditeur dit que on fait des trucs, on a vandalisé et nos traditions, c'est là où je suis en train de réagir en disant non. Il y a des trucs que les visiteurs ne voient pas. Quand on parle de épée ou épée soso, les visiteurs n'entrent pas dans la forêt pour aller chercher la pierre. Mais tout le monde est quand même là pour voir la sortie de la pierre. Voilà ce que j'ai à dire.
D'accord, merci Eric. Non, sans transition, nous passons à l'étape des cartons.
Mon carton, oui. C'est au maire de la commune Golf 3. C'est Gamal, non? Oui.
Je crois bien.
Hier, j'allais...
Quel carton? Vert ou jaune?
Vert ou rouge? Golf 3.
Golf 3.
Oui, Golf 3.
Oui, vous donnez quel carton?
Carton vert.
Carton vert, d'accord.
Carton vert, et j'avais pris un taxi pour aller à Téticopé hier. Et au niveau du garage central, le gars a serré et il a pris le ticket. Mais quelle fut ma surprise de voir que c'est un appareil électronique et qui servait le ticket.
D'accord. C'est digitalisé.
Digitalisé.
C'est la
première fois que je vois ça. Et alors, il faut que les autres mairies puissent s'en inspirer.
Voilà. Ça évite
pour éviter les fraudes. Alors là, carton vert au maire Golf 3.
D'accord. Gamal. D'accord. Merci. Ambroisine,
m'aider. Alors, je vais décerner un carton vert au CHU et précisément à l'unité d'onco-hématopédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. C'est une unité de prise en charge des enfants atteints du cancer. Et nous étions sur le site du campus Sylvanus Olympio pour notre premier rendez-vous du réseau des médias pour la promotion de la santé de l'environnement Romapsen. Nous avons réfléchi sur le cancer pédiatrique dont on ne parle pas souvent. D'accord. Et nous avons compris qu'aujourd'hui, la prise en charge précoce est importante et que des parents ignorent que ce centre existe et ignorent également qu'il faut se prendre tôt pour espérer avoir une guérison ou tout au moins une bonne prise en charge. Et donc, carton vert à cette unité-là, au directeur du CHU, à toute l'équipe et à l'OMS qui a soutenu cette conférence débat de Romapsen.
Toutes sortes de cancers, c'est ça?
Voilà.
D'accord. Merci, Eric Johnson.
Non, je vais juste faire un appel aux Togolais. À partir du jeudi 20, La CENI va afficher les listes électorales. Il faut aller vérifier et faire très tôt les réclamations si vos noms ne se trouvent pas sur ces listes-là.
D'accord.
En attendant de voir si on va rouvrir le recensement dans la zone.
Non, pas les recensements, mais au moins à
apurer la liste des mineurs des qu'on mineurs. A enregistrés. D'accord. C'est ça qui est important.
Merci à vous tous.
Vous avez suivi Jerry Tama, il a dit beaucoup de choses.
Merci à vous tous
d'être passés. On a fini.
Merci d'être passé dans cette émission. Éric Johnson du journal L'Union, Isidore Akolor du journal Actu Express et Ambroisine Memédé de l'agence de presse Savoie News. La technique a été assurée par Thomas Dativi, mise en ligne Géraud Akouka. Je suis Fousseni Saïbou. Vous retrouverez Pascal Lossou demain à 11h. À très bientôt.
Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie pour faire fructifier votre patrimoine tout en bénéficiant du rendement exceptionnel du marché financier, vous propose l'émission Club de la Presse. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Mega to me, he mega de le bona me, la be e la go. Akema faha wonu mabai, ehi bon wonu achi, kemia bada shi wonu mabai.